Alors donc, nous continuons notre lecture de l'encyclique avec l'article 46. On va se concentrer sur un seul article, mais qui est très très riche. Donc il y a pour titre, foi, prière et décalogue. Tout à l'heure, frère Jean nous a parlé du CEC. Peut-être tout le monde n'a pas bien compris ce que c'est que cette bête. Donc le CEC, c'est le catéchisme de l'Église catholique. C'est un livre qui a été donné, c'est le pape Jean-Paul II qui l'a voulu. Donc c'est tous les évêques du monde qui se sont concertés pour mettre dans un livre toute la foi catholique. Voilà. Donc quand on a une question, un problème pour savoir comment expliciter notre foi, bien on peut regarder dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Et donc ce CEC, eh bien, il s'articule en quatre grandes parties que Benoît XVI et le pape François reprennent dans l'encyclique. Donc c'est les deux derniers topos, enfin celui-là et puis celui de frère Jean tout à l'heure. Il y a la profession de foi, le credo, donc qui nous permet de dire notre foi. Les sacrements, qui sont le moyen de nourrir notre vie spirituelle. Les commandements, qui sont notre guide sur la route avec Dieu. Le pape Benoît XVI disait que c'était comme notre code de la route, voilà, pour aller au ciel. Et puis, la prière qui nous aide à être en communion avec Dieu, qui nous est essentielle pour être en communion avec Dieu. Et donc, ces quatre parties, eh bien, on les appelle les quatre piliers de la foi catholique. C'est pour ça que frère Clément-Marie vous disait, normalement, quand on est confirmé, on doit connaître ces quatre piliers, parce que ben, c'est là-dessus que s'appuie notre foi. Voilà. S'il nous en manque un, ben, il nous manque quelque chose dans notre vie de foi catholique. Voilà. Donc, avec frère Jean, on a déjà réfléchi sur la profession de foi et puis sur l'importance des sacrements. Et maintenant, eh bien, à l'aide de Benoît XVI et du pape François, nous allons approfondir l'importance de la prière et puis ensuite des 10 commandements pour notre vie de foi. Donc décalogue, ça veut dire 10 commandements. Alors d'abord, première grande partie, donc ce sera deux grandes parties, la prière et puis les 10 commandements. Alors d'abord la prière. Donc on va avoir trois petites parties. Qu'est-ce que la prière? Comment prier? Et puis, enfin, le Notre Père. On va voir que le Notre Père, c'est la prière par excellence. Donc, je ne vais pas vous faire un cours théorique sur qu'est-ce que la prière, comment prier de façon exhaustive. C'est plus une méditation aussi pour vous aider, vous, à réfléchir sur la façon dont vous vivez votre vie de prière. Donc, qu'est-ce que la prière? Le pape François nous disait dans son homélie du 17 octobre, donc il n'y a pas longtemps, il nous disait... Une chose est de prier, une autre est de dire des prières. C'est ce que dénonce Jésus quand il dit « ne rabâchez pas comme les païens ». Voilà. Une belle prière, ce n'est pas forcément une prière avec des jolis mots, « Oh Jésus », etc. Une belle prière, ça nous touche le cœur. Voilà. Et ben, pour Dieu, ce n'est pas forcément ça la belle prière. La belle prière, c'est une prière qui est faite avec des mots qui viennent de notre cœur. Voilà. Et le pape François disait encore, en reprenant les paroles de Jésus, « Quand tu pries, va dans ta chambre et prie le Père dans le secret, dans un cœur à cœur. Voilà. » Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser des prières toutes faites. Hier, vous aviez la prière de Saint François, ou je ne sais plus, il y en avait une autre là. C'est très bien d'utiliser des prières toutes faites, mais il faut qu'elles rentrent dans notre cœur, que nous les fassions nôtres, voilà. Qu'elles passent par notre cœur. Vous voyez, c'est les 60 cm, vous vous rappelez? Voilà, qu'elles passent de notre tête à notre cœur. Et alors, ces prières, eh bien, du coup, elles nourriront notre foi. Le pape François nous disait encore dans cette même homélie du 17 octobre, « La clé qui ouvre la porte de la foi, c'est la prière. » Parce que lorsqu'un chrétien prie, il ne s'éloigne pas de la foi, il parle avec Jésus. Voilà ce que c'est la prière, c'est parler avec Jésus. Voilà. Et parler avec Jésus, donc avec nos propres mots, soit avec nos propres mots, soit en faisant nôtres ceux des autres, mais surtout parler avec Jésus. Et quand on parle avec quelqu'un, on lui parle et puis lui, il nous répond. Et Eh bien, parler avec Jésus, c'est aussi savoir se taire, faire silence. Voilà. Intérieur, mais aussi extérieur. S'il y a la télé qui marche à côté, ou le MP3, ça ne peut pas faire une prière qui soit du cœur. Voilà. Et donc, en faisant le silence, eh bien, on pourra percevoir ce que Jésus veut nous dire. Et puis, des fois, on se dit, moi, je voudrais bien prier, mais je ne sais pas quoi dire. Eh bien, ne dites rien. Voilà, écoutez. Il y avait une fois le père Cantalamessa qui était prédicateur de la maison pontificale, ça veut dire pendant le pontificat au mois de Jean-Paul II et de Benoît XVI, et bien c'est lui qui prêchait certaines fois aux messes du pape avec ceux qui travaillent au Vatican. Voilà. Et il disait, et bien il faut savoir dire de temps en temps, comme le jeune Samuel qui entend Dieu qui l'appelle, il faut savoir dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » et pas toujours « Écoute Seigneur, je te parle ». Et alors, eh bien, en écoutant Jésus dans la prière, en faisant silence, eh bien, on pourra recevoir des lumières, on pourra entendre Jésus avec notre cœur. Alors, ça ne sera pas forcément fulgurant tout de suite, hein, on n'aura pas des lumières peut-être tout de suite, mais des fois, à force de prier, à force de parler à Jésus de notre problème, et puis d'essayer de faire silence pour que Jésus puisse nous répondre, eh ben on pourra peut-être avoir des lumières, une réponse, une solution à un problème on n'avait pas pensé en faisant ça, voilà. Ou bien des fois on n'a pas l'impression que Jésus nous répond, puis finalement on prend une décision et puis on se rend compte que c'était la meilleure à prendre, voilà. Voilà, donc ça montre que Jésus nous a bien répondu. Voilà. Écouter, ça peut aussi être prendre un passage de la parole de Dieu, puisque comme par définition, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Voilà. Et puis ensuite, on y réfléchit, comme on a fait hier soir. Alors, comment prier ? Alors, le pape François, encore, nous disait le mardi 8 octobre, et nous interpellait, comment prions-nous ? Est-ce que nous prions comme cela, par habitude, pieusement mais tranquille ? Ou est-ce que nous y mettons du nôtre, avec courage, devant le Seigneur pour demander la grâce, pour demander ce pourquoi nous prions ? Est-ce que nous nous impliquons dans la prière ? Est-ce que nous avons frappé au cœur de Dieu ? Et le Saint-Père, en commentant la parabole de l'ami importun, donc que vous trouvez en Saint-Luc 11, versets 5 à 8, donc c'est toujours le 8 octobre, il disait que cette parabole, elle illustre le courage dans la prière. Vous savez, c'est Jésus qui dit, imaginez que vous avez un ami et en pleine nuit, vous recevez quelqu'un, puis vous allez frapper chez votre ami et vous lui dites, donne-moi du pain parce que je viens de recevoir quelqu'un et voilà, et j'ai rien à lui donner. Et Jésus dit, si l'autre va se lever, pas par amitié pour vous, mais parce que vous avez eu le culot de venir frapper à sa porte en pleine nuit. Voilà. Eh bien, le pape disait, c'est ça le courage dans la prière. Il disait, une prière qui n'est pas courageuse n'est pas une vraie prière. Eh bien, ce courage dans la prière, c'est la mesure de notre foi. Parce que si on est convaincu que Dieu nous écoute, eh bien, on va avoir ce courage de demander. Le pape François disait, ce courage, c'est le courage d'avoir confiance dans le fait que le Seigneur écoute. Avoir confiance dans le fait que le Seigneur écoute. Des fois, on pourrait se demander, quand je prie, est-ce que vraiment je crois que Dieu m'écoute et que Dieu peut me répondre, que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie ? Ou est-ce que Dieu, c'est simplement une idée et puis je prie voilà, par habitude, hein, comme il disait tout à l'heure ? Ce courage, c'est le courage de frapper à la porte, mais il faut demander, chercher, frapper, c'est-à-dire persévérer, voilà. Quand Dieu ne répond pas, eh ben c'est souvent parce qu'il attend que justement qu'on y mette du nôtre et puis qu'on s'implique. Le Saint-Père disait enfin que le courage de la foi, c'est d'oser demander au Seigneur d'apporter lui-même la grâce. Parce que, dit-il, une grâce est toujours apportée par lui. C'est lui qui vient et qui la donne. Il disait aussi, je crois que c'était dans la même homilie, il disait « Dieu, il n'envoie pas une grâce par la poste ». Vous voyez, quand vous envoyez une lettre, vous êtes loin de la personne à qui vous voulez parler, vous n'êtes pas présent. Dieu, il vient lui-même. Et il ne nous envoie pas une grâce du haut du ciel, indifféremment. Il vient, il nous apporte sa grâce, c'est lui qui l'apporte. Alors, on disait tout à l'heure que prier, c'est aussi savoir écouter. Mais parfois, on peut avoir peur d'écouter Dieu. Parce que le Seigneur pourrait nous demander des choses pas faciles. des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, des choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors, peut commencer un combat avec Dieu, qui dans la foi peut être dur, entre ce que nous voulons, ce que Dieu veut, et que je perçois dans la prière, et en même temps le fait que comme chrétien, je veux faire la volonté de Dieu. Mais Seigneur, si tu voulais faire comme moi je veux, si ta volonté pouvait être la mienne, ça serait drôlement bien. Et alors le courage à ce moment-là, le courage de la foi, ça peut être d'oser demander au Seigneur de nous donner lui-même la grâce, la force de dire oui. Par exemple, deux petits exemples, ce n'est pas tous des saints, mais la bienheureuse Chiara Luce, qu'on a rencontrée pour certains cet été, eh bien, quand elle a appris que sa maladie était incurable, donc à 18 ans, elle a appris que sa maladie était incurable, qu'elle allait mourir, c'était inexorable, eh bien, pendant 25 minutes, elle a eu ce combat avec Dieu. Et certainement, où elle lui a demandé, Jésus, je veux ce que tu veux, mais aide-moi à dire oui. Et puis au bout de 25 minutes, eh bien, elle est sortie de son combat. Et puis elle a dit à sa mère, maintenant, voilà, tu peux me parler. Et elle n'a jamais perdu son sourire. Il y a aussi un témoignage, si vous ne l'avez pas vu, il faut le regarder, que vous pouvez avoir sur le site de la communauté, le témoignage de Fouad, ce jeune Libanais qui a perdu la vue dans un attentat. Et puis, il a eu deux grands combats, un combat pour accepter sa cécité, et puis un combat aussi quand on a retrouvé l'auteur de l'attentat. Et lui, il avait qu'une envie, c'est de se venger. Voilà. Et puis, il entendait la voix de Dieu qui lui disait, « Est-ce que tu m'aimes, Fouad ?» Et Fouad disait, « Mais oui, Seigneur, je t'aime. Alors, si tu m'aimes, tu pardonnes. » « Mais non, c'est pas possible, enfin. J'ai 17 ans, j'ai perdu la vue, je peux pas pardonner. » Et puis, il est venu au pied de Notre-Dame-des-Neiges, et il a demandé, il disait qu'il sentait que c'était la volonté aussi de la Sainte Vierge de l'aider à pardonner. Et il a reçu de Notre-Dame-des-Neiges cette grâce de pardonner à celui qui avait posé la bombe et à cause de qui il avait perdu la vue. Voilà. Donc ce combat, et puis c'est Dieu, le courage, oser demander à Dieu de nous aider à dire oui. Puisque tu le veux, eh ben fais-moi dire oui. Voilà. Et puis c'est comme ça que notre foi grandit. Voilà. À force de nous confronter avec Dieu, puis de voir Dieu intervenir dans notre vie. C'est comme ça qu'on rencontre Dieu. On en a beaucoup parlé pendant la session. La foi, c'est une rencontre avec le Seigneur. Et bien, dans la prière et dans ces combats qui peuvent être durs, et bien, on rencontre Dieu dans la prière persévérante. Et c'est comme ça que notre foi, elle grandit. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, souvent, Jésus, il admire la foi, c'est-à-dire la confiance et l'audace de ceux qui viennent lui demander. Par exemple, cette femme syrophénicienne, vous savez, qui vient trouver Jésus, elle n'est pas juive, et elle lui dit, ma fille est malade, il faut que tu la guérisses. Et Jésus lui dit, mais tu n'es pas juive, je ne suis pas venue pour toi, je n'ai pas de raison de nourrir ta fille, de soigner ta fille, de guérir ta fille. On ne donne pas la nourriture aux petits chiens. Et la syrophénicienne, elle ne se dégonfle pas, elle lui dit, oui, mais les petits chiens, ils vont manger les miettes. Voilà. Donc si tu veux, tu peux la guérir, même si je ne suis pas juive, tu peux la guérir. Et Jésus dit, femme, ta foi est grande, va, ta fille est guérie. Vous voyez, Jésus admire cette audace. Voilà. Et il compare cette audace à la foi. Voilà. Et bien nous aussi, il faut qu'on ait cette confiance et cette audace de dire à Dieu, mais si tu veux, tu peux. Voilà. Et plus on rencontrera Jésus, qui est Dieu, régulièrement et intimement dans la prière, et plus on deviendra proche de lui, plus on le connaîtra, plus on l'aimera, et plus cet amour deviendra si fort qu'on pourra alors passer toutes les épreuves de la vie. Vous voyez, ceux qui disent « j'ai perdu la foi parce que j'ai eu une grande épreuve », eh bien, c'est qu'avant, il n'y avait pas cette relation avec Jésus. Voilà. Et c'est comme ça, voilà, à force de prière et de combat, qu'on pourra mettre Dieu au centre de notre vie, ce qu'on a dit aussi toute la session, qu'on pourra se décentrer de nous et puis mettre Dieu au centre de notre vie. Voilà. C'est comme ça aussi, à force de rencontres, comme nous l'a dit frère Clément-Marie, que, eh bien, petit à petit, on ne va plus croire parce que nos parents croient, parce que nos parents nous l'ont appris, mais parce que moi, j'ai rencontré Jésus, parce que j'ai vu son œuvre dans ma vie, maintenant je crois. Voilà. Alors, troisième partie, le Notre Père. Donc, c'est une autre manière de rencontrer Jésus, c'est la prière que lui-même nous a apprise. Et le CEC nous la cite comme la prière par excellence. Alors on lui donne deux noms. On l'appelle la prière du Seigneur, parce que c'est lui qui nous l'a donné. Et puis aussi, des fois, vous pouvez entendre parler de l'oraison dominicale. Ce n'est pas parce qu'on l'a dit le dimanche, c'est parce que Domini, ça veut dire du Seigneur. Donc, oraison dominicale, ça veut dire prière du Seigneur. Voilà. Et donc, cette prière, elle est importante parce qu'elle nous est donnée par Dieu fait homme. C'est la prière que Jésus donne à ses apôtres et à ses disciples en deux évangiles. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, après qu'il leur a dit de se retirer dans sa chambre et de ne pas rabâcher, comme je vous disais tout à l'heure, après il leur donne le Notre Père. Et puis en Saint-Luc, au chapitre 11, il la donne à ses disciples qui, après l'avoir vu prier, lui demandent « Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples ». Alors Benoît XVI, dans l'Angélus du 25 juillet 2010, il reprend l'enseignement qu'il avait donné dans son tome de Jésus de Nazareth, le premier tome qui parle de la vie publique de Jésus. Et il donne tout un enseignement sur le Notre Père. Et donc, entre autres, il nous dit « Jésus leur enseigna le Notre Père qu'il tira de sa propre prière. » Vous voyez, il vient, ses disciples le voient prier, ils redescendent la montagne et ses disciples lui disent « Apprends-nous à prier. » Donc il tire cette prière de sa propre prière, celle avec laquelle il s'adressait à Dieu son Père. Nous avons là les premières paroles de l'Écriture sainte que nous apprenons dès l'enfance. Elles s'impriment dans notre mémoire, façonnent notre vie, nous accompagnent dans notre dernier soupir. Elles nous révèlent que nous ne sommes pas déjà de façon accomplie des enfants de Dieu, mais que nous devons le devenir et l'être toujours davantage à travers notre communion de plus en plus profonde avec Jésus. Être enfant devient l'équivalent de suivre le Christ. Voilà. Donc, être enfant de Dieu, eh bien, c'est entrer de plus en plus en communion profonde avec Jésus. Et à travers la prière du Notre Père, eh bien, on peut y parvenir. Et ça rejoint cette phrase du passage de Lumen Fidei 46 qu'on est en train d'étudier, qui nous dit « Dans cette prière du Notre Père, le chrétien apprend à partager l'expérience spirituelle elle-même du Christ » et commence à voir avec les yeux du Christ. On peut dire que Benoît XVI nous la désigne comme la prière qui répond le mieux à l'exhortation du pape François que nous avons citée tout à l'heure, il faut demander, chercher et frapper. Et bien avec le Notre Père, on peut demander, chercher et frapper. Donc le pape Benoît XVI nous dit, dans le même Angélus donc, du 25 juillet, « Cette prière exprime également les besoins humains, matériels et spirituels. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Et à cause des besoins et des difficultés de chaque jour, eh bien Jésus exhorte avec force, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. » À noter qu'en Saint-Luc, au chapitre 11, donc c'est ce chapitre qui Jésus nous donne le Notre Père à la demande de ses disciples. Donc voilà, le chapitre 11, c'est tout le chapitre de l'enseignement de Jésus sur la prière. D'abord, versets 2 à 4, il nous donne le Notre Père. Versets 5 à 8, il nous donne la parabole de l'ami importun. Et ensuite, versets 9 à 10, il exhorte ses disciples à demander, chercher et frapper. Donc c'est donc bien là tout l'enseignement de Jésus sur la prière que Benoît XVI et le pape François nous transmettent pour approfondir notre foi. Alors Benoît XVI ajoute un point important pour prier comme il faut. Il dit « Il ne s'agit pas de demander pour satisfaire nos propres envies, mais plutôt pour garder vivante l'amitié avec Dieu. » Donc la prière, c'est pas simplement pour demander, c'est surtout pour entretenir notre amitié avec Dieu. Et donc Benoît XVI nous dit « Dieu dit et redit dans l'Évangile, il donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Et cette prière, c'est le verset 13 du chapitre 11 de Saint-Luc qui est la conclusion de l'enseignement de Jésus sur la prière. Elle nous dit bien que pour prier comme il faut, eh bien, il nous faut l'aide de l'Esprit-Saint. Alors, deuxième partie, le décalogue, donc les 10 commandements. Alors, première petite partie, le décalogue, une loi de liberté. Et puis, ensuite, deuxième partie, la loi de la nouvelle alliance. Donc, le passage de Lumen Fidei que nous étudions évoque donc les 10 commandements, ensuite, après la prière, comme un chemin de foi. Et l'encyclique cite Exode 20, 2 à 17, qui est le premier passage où le décalogue est donné à Moïse et énoncé. Donc, je vais vous le lire. Donc vous pouvez le reprendre, je l'allège un petit peu, mais « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune image sculptée. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Alors en résumé, un peu plus clair et plus, voilà, que vous pouvez trouver dans un livre de catéchisme. Donc premier commandement, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Deuxième, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Troisième, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Quatrième, tu honoreras ton père et ta mère. Cinquième, tu ne tueras pas. Sixième, tu ne feras pas d'impureté. Septième, tu ne voleras pas. Huitième, tu ne mentiras pas. Neuvième, tu n'auras pas de désir impur volontaire. Dixième, tu ne désireras pas injustement les biens des autres. Alors donc, le passage que nous étudions de l'encyclique nous dit « Le décalogue n'est pas un ensemble de préceptes négatifs, mais des indications concrètes afin de sortir du désert du moi autoréférentiel, renfermé sur lui-même, et d'entrer en dialogue avec Dieu en se laissant embrasser par sa miséricorde et pouvoir en témoigner. » Alors pour illustrer cela, le pape François parlait à l'audience du mercredi 18 septembre. Il parlait de l'Église Notre Mère, il parlait à des mamans, il parlait de l'Église Notre Mère et il disait que comme une maman éduque ses enfants, eh bien l'Église, je cite, « oriente notre vie. Elle nous dispense des enseignements pour marcher droit. Pensons aux 10 commandements. Ils nous indiquent la route à parcourir pour mûrir, pour avoir des points de référence dans notre manière de nous comporter. Vous pourriez me dire « Mais ce sont des commandements, c'est un ensemble de noms. » Je voudrais vous inviter à les lire et à y réfléchir de manière positive. Et alors là, c'est Benoît XVI qui vient à notre aide. Dans l'homélie du 8 janvier 2006, il disait « Les 10 commandements ne sont pas un ensemble d'interdits, de noms, mais ils représentent en réalité une grande vision de vie. Ils sont un oui à un Dieu qui donne sens à l'existence, 3 premiers commandements. Un oui à la famille, 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Un oui à la vie, tu ne tueras pas. Un oui à l'amour responsable, tu ne feras pas d'impureté. Un oui à la solidarité, à la responsabilité sociale, à la justice, tu ne commettras pas de vol. Un oui à la vérité, tu ne mentiras pas. Un oui au respect de l'autre et de ce qui lui est propre. Tu n'auras pas de désir impur volontaire, tu ne désireras pas les biens des autres. Telle est la philosophie de la vie, telle est la culture de la vie qui devient concrète, praticable et belle dans la communion avec le Christ, le Dieu vivant qui marche avec nous. » Donc en résumé, les 10 commandements, ce sont des noms si on se regarde, parce que je n'ai pas le droit de faire ci, mais c'est un oui si on sort de notre moi et si on veut faire les choses pour les autres. Si on se sert des commandements pour voir ce qu'on peut faire pour les autres. Le pape François soulignait aussi le dimanche 19 mars, en commentant le passage de Exode 20 que je vous ai lu, il dit « Un détail nous frappe immédiatement. L'énonciation des 10 commandements est introduite par une référence significative à la libération du peuple d'Israël. Le texte dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Le décalogue se veut donc une confirmation de la liberté conquise, pas un emprisonnement. En effet, continue le pape, les commandements sont, si on les regarde en profondeur, sont le moyen que le Seigneur nous donne pour défendre notre liberté, aussi bien des conditionnements internes, des passions, que des abus externes de personnes mal intentionnées. Les noms des commandements sont autant de oui à la croissance d'une liberté authentique. Et on voit bien aujourd'hui, avec toutes les lois qui nous sont données, eh bien que ceux qui se lèvent, ceux qui essayent d'entraîner les autres, eh bien ce sont les chrétiens. Parce que justement, les commandements nous éclairent pour nous dire « Mais non, ces lois, ça ne va pas, ça va pas, c'est pas dans l'ordre des choses. Voilà. » Donc elles nous libèrent des oppressions que d'autres jeunes que vous pouvez rencontrer dans vos études ou dans vos travails vous diront « Je vois pas le problème, un enfant, s'il est heureux avec deux pères ou deux mères, après tout, hein, voilà. » C'est Dieu qui nous dit « Non, ça va pas. » C'est Dieu qui nous libère de ces conditionnements. Voilà, donc le décalogue, c'est bien un don de Dieu pour notre bien. Et il y a une petite phrase, parce que les commandements sont donnés aussi dans le livre du Deutéronome, et il y a une petite phrase, après que Dieu ait dit « Tu ne travailleras pas le jour du sabbat », il dit « Ainsi, comme toi, ton serviteur et ta servante pourront se reposer. » Voyez un peu, Dieu, eh bien, il ne nous demande pas de ne pas travailler pour nous opprimer, mais parce qu'il veut qu'on se repose. C'est quand même beau ça, hein. Dieu, il veut qu'on se repose, et il nous donne des commandements pour nous dire « Mais vous avez besoin de vous reposer. » Voilà, donc ça montre bien que Dieu est notre Père, que son intention, c'est pas de nous entraver, ni de nous empêcher de nous réaliser en travaillant toute la semaine, même le dimanche, mais de nous permettre de vivre selon notre dignité d'homme. Et puis le pape Benoît XVI aussi ajoutait, il existe une deuxième dimension du décalogue, qu'il faut également souligner. À travers la loi donnée par la main de Moïse, le Seigneur révèle qu'il souhaite passer avec Israël un pacte d'alliance. Plus qu'un ordre, la loi est par conséquent un don. Plus que commander ce que l'homme doit faire, il veut manifester à tous le choix de Dieu. Il est du côté du peuple élu. Il l'a libéré de l'esclavage et il l'entoure de sa bonté miséricordieuse. Le décalogue est le témoignage d'un amour préférentiel. Ça casse tout ce qu'on peut nous marteler dans le monde, hein, ces 10 commandements qui veulent nous opprimer et tout ça. Eh bien non, Dieu, il nous donne ses commandements parce qu'il nous aime. C'est un peu comme des parents qui disent à leur petit « ne va pas ou à leur ado, ne va pas regarder tel film ou ne sors pas avec un tel parce que il est dangereux pour toi ». Voilà. Alors l'ado, en général, il se dit « Ouais, mes parents, ils veulent pas me laisser faire ci et tout ça, mais c'est pour son bien. » Voilà. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Il nous donne ses commandements pour notre bien. Et nous, eh bien, ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance. Voilà. Même si on ne comprend pas tout, eh bien, de faire confiance comme des enfants envers leurs parents. Et donc, si dans la prière, on a grandi dans notre foi, alors les commandements seront vraiment un prolongement pour concrétiser cette relation avec Dieu. Alors, deuxième petite partie, la loi de la nouvelle alliance. Alors, vous avez remarqué que dans les textes que je vous ai cités des deux papes, eh bien, ils nous citent les 10 commandements dans un contexte de Nouveau Testament. Le pape François, il nous parle de l'Église éducatrice et Benoît XVI nous parle de la communion avec Jésus. Ça fait grandir notre communion avec Jésus de vivre des 10 commandements. Eh bien, c'est qu'en effet, vous savez que tout l'Ancien Testament a préparé la venue de Jésus. On l'a dit aussi pendant la session. Et Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Si vous prenez en Matthieu 19, 16 à 22, vous savez, c'est l'histoire du jeune homme riche qui vient trouver Jésus et qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors Jésus lui cite les 7 derniers commandements qui sont très pratiques. Puis le jeune homme lui dit « Ça, je le fais depuis ma naissance de façon parfaite. Voilà, je fais tout très bien. Qu'est-ce qui me manque encore ?» Et alors Jésus, à ce moment-là, lui dit d'appliquer les 3 premiers commandements. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Voilà. Préférer Dieu, l'aimer plus que tout. C'est les trois premiers commandements. Eh bien, Jésus, ça nous montre que Jésus, il est venu nous appeler à une sainteté supérieure à celle de l'Ancien Testament. Dans le discours sur la montagne, en Matthieu 5, qui commence par les béatitudes, Jésus reprend les commandements pour leur donner une exigence supérieure dans les actes qu'il nous demande de poser. Par exemple, il nous dit, on vous a dit de tenir vos serments, si vous jurez par le nom de Dieu, il faut tenir vos serments. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà. On n'a pas besoin de vous faire jurer, on doit pouvoir vous faire confiance. Voilà. Il reprend aussi, on peut le mettre en parallèle avec le cinquième commandement, ne pas tuer. Eh bien Jésus nous dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Non seulement ne les tuez pas, mais aimez-les et priez pour eux. Et puis aussi, ne pas voler. Jésus nous dit, eh bien, à celui qui te fait un procès pour avoir ta tunique, donne aussi ton manteau. Non seulement ne prends pas le bien d'autrui, mais donne-lui plus qu'il te demande. Voilà. Jésus montre une exigence supérieure parce qu'il nous donne sa grâce pour vaincre le péché par sa mort et par sa résurrection. Et si notre foi grandit dans la prière, eh bien ces commandements, ils nous seront un fardeau léger, parce qu'on le fera par amour, on les appliquera par amour de Jésus. Alors le 28 mars 2010, à la messe des Rameaux, donc qui sont la journée des JMJ, donc il s'adressait à des jeunes, le pape Benoît XVI disait que saint Paul, dans son évangélisation des païens, disait que la loi est vaine sans la foi. C'est ce que nous disait... Frère Clément-Marie, je crois. La loi, donc les œuvres de la loi qu'on devait faire, eh bien, sont vaines si on n'a pas la foi. Et il n'imposait pas aux païens les préceptes de la loi juive. Benoît XVI nous dit que c'est parce que saint Paul, donc je cite, leur donne uniquement le Christ pour loi. Mais cela signifie aussi l'amour pour Dieu et pour le prochain et tout ce qui en fait partie, donc de poser des œuvres d'amour. Les commandements qu'il faut lire de façon nouvelle et plus profonde à partir du Christ appartiennent à cet amour. Les commandements appartiennent à l'amour de Dieu et du prochain. Tous les commandements. Ces commandements ne sont autres que les règles fondamentales du véritable amour. D'abord, comme principe fondamental, l'adoration de Dieu, le primat de Dieu qu'expriment les trois premiers commandements. Ils nous disent... Sans Dieu, rien n'aboutit. Voilà. Donc on peut faire toutes les œuvres caritatives qu'on veut, si on ne met pas Dieu au centre, à l'origine même, hein, si on ne le vit pas pour le service de Dieu, eh bien, ça ne sert à rien. Voilà. Ils nous disent, voilà, sans Dieu, rien n'aboutit. C'est à partir de la personne de Jésus-Christ que nous apprenons qui est ce Dieu et comment il est. C'est Jésus qui est venu nous révéler Dieu. Et puis, dit le pape François, suive la sainteté de la famille. Donc, quatrième commandement, honore ton père et ta mère. La sainteté de la vie, ne pas tuer. L'ordre du mariage, pas d'impureté. L'ordre social, tu ne commettras pas de vol. Et enfin, la nature inviolable de la vérité, tu ne mentiras pas. Et le pape François nous dit... Donc il nous disait ça en 2010, mais c'est toujours valable en 2013. Tout cela est aujourd'hui de la plus grande actualité et va précisément également dans le sens de saint Paul. Donc, comme le dit l'encyclique au numéro 46, en mettant en pratique les 10 commandements, selon la volonté de Dieu, qui est de nous libérer de nous-mêmes et du monde, eh bien, nous dit l'encyclique, notre foi confesse ainsi l'amour de Dieu, origine et soutien de tout. En mettant en pratique les 10 commandements, notre foi confesse l'amour de Dieu. Elle se laisse porter par cet amour pour marcher vers la plénitude de la communion avec Dieu. Et cette plénitude de la communion avec Dieu, c'est la sainteté. C'est-à-dire que vivre selon les commandements, eh bien, c'est marcher vers la sainteté. Alors, en conclusion... Donc on a bien vu que la prière et les 10 commandements, ce sont bien 2 des 4 piliers sur lesquels bâtir notre foi. La prière est indispensable pour garder vivante notre relation avec Dieu, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Pour cela, il faut qu'elle soit vivante, c'est-à-dire qu'elle soit une recherche active de la rencontre avec Dieu. Que ce ne soit pas simplement un rituel, mais que vraiment ça soit une recherche de la rencontre avec Dieu. Et ainsi, on pourra mieux le connaître, l'aimer et entrer dans une relation de plus en plus confiante et filiale avec lui. Et puis le décalogue, nous l'avons vu, est aussi un moyen que le Seigneur nous donne pour agir selon sa volonté. Voilà. La volonté de Dieu, on la trouve dans la prière, on la trouve aussi dans les 10 commandements. Et dans la foi, eh bien, nous savons que cette volonté de Dieu, elle est bonne pour nous, même si parfois elle peut nous contrarier, nous paraître difficile. Nous avons mieux compris qu'en adhérant dans la foi à cette volonté divine, nous pourrons devenir des personnes libres d'être ce que nous devons être. Nous devons faire découvrir aux hommes de notre temps que la loi de Dieu n'est pas une loi de servitude, de l'oppression de Dieu, mais au contraire une loi qui nous libère de l'esclavage de nos tendances mauvaises. Et comme le disait le pape dans l'encyclique, eh bien nous devons nous laisser embrasser par la miséricorde de Dieu et en témoigner à ceux qui nous entourent.